Hautes faits. Écrit et raconté par Chris J. Vero. La mémoire est une chose étrange. Depuis environ 35 ans, j'avais pratiquement tout tenté pour oublier les événements de cette nuit d'août 1870, tout en sachant pertinemment que tout l'alcool, ou tout le laudanum du monde, ne parviendrait qu'à retarder le retour de ces images de cauchemar. Et je savais que les rêves reviendraient en cette soirée du 28 juillet 1914. Alors que je profitais du temps magnifique que nous proposait l'été, j'assistais à un mouvement de foule. Des cris fusaient dans l'air, parfois des cris exaltés et parfois des pleurs. Une affiche fraîchement posée annonçait que la France entrait en guerre, une nouvelle fois, contre le voisin allemand. Les larmes m'étaient montées aux yeux sans que je m'en rende compte. Il n'avait pas fallu 50 ans pour que la guerre n'embrase à nouveau les campagnes ou n'électrifie les esprits naïfs des jeunes hommes qui tournaient autour de moi. Pendant un bref instant, je vis dans leurs yeux la flamme. Cette flamme qui parcourait mes cauchemars depuis 35 ans. En était-il seulement conscient? Savait-il que leur esprit ne leur appartenait déjà plus? Comment le pourrait-il? Moi-même, je n'aurais que difficilement pu expliquer cet étrange phénomène. Je peux seulement relater ce que j'ai vu. Peut-être que cela n'aura aucun sens pour ceux qui liront ce témoignage. Je serai sans doute perçu comme un dément. Cela n'a pas d'importance. Cela n'a plus d'importance. Notre monde va à nouveau s'embraser dans un conflit dont je ne verrai peut-être pas la fin. Qui sait combien de temps il va durer. J'ai entendu les cris et les chansons dans la rue, promettant que Berlin serait française d'ici Noël. Mes pauvres enfants, la naïveté est décidément une chose propre à la jeunesse. Pensez-vous vraiment que les Allemands ne se défendront pas? Avez-vous oublié à quel point ils nous étaient supérieurs en tout point 35 ans auparavant? Pour la première fois depuis toutes ces années, je vais faire de mon mieux pour me souvenir de tous les détails, les coucher sur le papier et puis quitter la folie parisienne. Je ne sais pas encore où, tant que c'est loin de l'Allemagne, et encore plus loin de Hautefeuille, l'endroit où j'ai vu les démons se substituer aux hommes et massacrer celui que j'appelais mon maître. L'été 1870 avait été particulièrement chaud. Toute la commune de Hautefeuille semblait devoir vivre au ralenti, évitant comme la peste les heures les plus ardentes de la journée. À cette époque, tout le pays était en émoi, car un mois plus tôt, l'empereur avait déclaré la guerre à l'Empire de Prusse. Les hommes étaient, à ce qu'il semblait, tout à fait disposés à aller se battre, ainsi que mon maître, Alain de Monéis. À cette époque, alors âgé de 15 ans, je travaillais comme domestique dans le domaine de la famille de Monéis, et j'étais très fréquemment amené à accompagner le souffreteux Alain Romuald, un homme d'une grande gentillesse qui n'avait malheureusement pas été épargné par la vie dans ses doléances. De 17 ans, mon aîné, je le considérais souvent comme une sorte de grand frère, bien que je ne lui eusse jamais confessé. Après tout, la famille de Monéis faisait partie de la noblesse de Dordogne, et Amédée, le père d'Alain, avait été le maire de la commune de Beaussac. Et moi, je n'étais que le fils d'une famille paysanne de Hautefeuille. Je ne devais mon poste qu'à la gentillesse de l'héritier de la famille Monéis. Je devais livrer une cargaison de légumes pour les cuisines du domaine et à ma grande surprise, ce fut Alain de Monéis lui-même qui m'accueillit, avec un grand sourire. Je pouvais sentir son intention et sa volonté de m'aider à décharger ma livraison, mais malgré mon jeune âge, je pouvais voir qu'il était sur le point de se blesser. Il était d'une maigreur impressionnante, maladif et plutôt pâle, et cela semblait ne pas vouloir entacher sa bonne humeur et le grand sourire qui lui barrait le visage. Après plusieurs mois de livraison fréquente, il me demanda si travailler pour lui pourrait m'intéresser. J'étais pris par surprise, et dans son éternel sourire, il me présenta les avantages que je pourrais avoir à travailler sur le domaine. Je pourrais potentiellement soulager mes parents de ma présence, tout en gagnant ma vie. Mes quatre frères et sœurs, tous plus jeunes que moi, pesaient dans la balance, et je voulais surtout qu'ils puissent grandir, sans manquer de rien. Mes parents accueillirent la nouvelle avec bonheur. Eux-mêmes ne voulaient pas me mettre le couteau sous la gorge, mais les finances de la famille n'étaient pas vraiment florissantes. Ainsi, à l'automne 1869, je commençais à travailler sur le domaine des Monéis. Très honnêtement, ce fut l'année la plus grisante de ma vie. Accompagner Alain de Monéis était un bonheur, bien loin de mes obligations de la ferme familiale. Je ne faisais que le servir, lui ou ses invités, et de temps à autre, je m'en retournais à Hautefeuille pour délivrer ou réceptionner son courrier, et j'en profitais pour passer voir mes parents. Alain de Monéis, j'en étais certain, était étranger au sentiment de méchanceté. Tous les domestiques du domaine travaillaient dur pour leur maître et ce dernier le leur rendait bien. L'une des cuisinières, Angèle, avait raconté ses quelques années passées au service du maire de Beaussac de l'époque. Ce dernier était apparemment un homme cruel et violent, avec sa famille comme avec ses domestiques. Angèle ne cachait pas son soulagement de travailler pour Alain de Monéis, et que j'étais diablement chanceux d'avoir été pris à son service. Ma vie dans le domaine de Monéis fut douce et agréable. Je parvenais à économiser quelques sous tout en aidant ma famille du mieux que je le pouvais. Et cette existence m'avait quelque peu sorti des intrigues de mon petit village. Mais également, n'étant pas à l'aise avec la lecture, je n'avais pas tout à fait réalisé que la guerre était à nos portes. Bien entendu, au travers du discours de mon père, j'avais été élevé dans la haine du voisin prussien et dans l'adoration de l'empereur. Toutefois, je réalisais que le petit pays de Dordogne entrait progressivement en effervescence à l'approche de l'inévitable conflit. Les esprits s'échauffaient, les gosiers remplis d'alcool autant que de patriotisme beuglaient leurs chants de guerre dans les tavernes. Je m'étais retrouvé dans l'auberge de Hautefaye aux côtés de mon père au moment où une tablée de paysans du village s'était mis à chanter les louanges de Napoléon III. Ce spectacle m'avait rendu mal à l'aise. Pourquoi ce débordement d'amour envers l'empereur ? Ne se rendrez pas sur le champ de bataille pour vous aider quand vous subirez la mitraille ennemie. Bien entendu, je gardais ces remarques pour moi. Je ne voulais pas faire honte à mon père, ni attiser la colère de ses hommes. À cette occasion, j'avais remarqué quelque chose qu'à l'époque je mis sur le compte de l'imagination et de la consommation d'alcool bien que modérée. Ces hommes qui chantaient la gloire de l'Empire avaient une lueur étrange qui dansait dans leurs yeux. Je pensais alors qu'il s'agissait de vapeurs d'alcool ainsi que de la lumière tamisée de l'auberge qui leur donnait cette apparence étrange. Mais pendant quelques secondes, du haut de mes 15 ans, j'étais persuadé d'avoir vu une tablée de démons, grimaçants et moqueurs. Le lendemain même, je riais presque de ma propre naïveté et de mon imagination, tout en me promettant de me calmer sur la consommation d'alcool. Mais même si l'alcool peut être dommageable de bien des manières, il n'avait rien à voir avec ce que j'avais vu ce soir-là. Nous subissions l'été 1870 de plein fouet. Du haut de mes 15 ans, je n'avais jamais vécu une telle canicule. Est-ce que le temps s'accordait volontairement avec la politique des pays, me demandai-je, plein de naïveté. Depuis un mois environ, l'Empire de France était en guerre contre le voisin prussien, et de ce que je pouvais comprendre des conversations que j'entendais autour de moi, la situation de l'armée française n'était pas bonne. Je n'avais personnellement aucune culture militaire, ainsi je ne pourrais expliquer pourquoi telle ou telle bataille fut remportée ou perdue. Une chose revenait souvent dans les conversations, à savoir l'incompétence des officiers français. Un jour, la famille de Monéis reçut la visite d'un ami de longue date, et accessoirement un militaire de carrière qui avait pris sa retraite suite à la campagne russe. Le colonel d'Estrangier. Il y avait perdu une jambe mais avait conservé un esprit de revanche vis-à-vis de ses anciens officiers.
« Mon cher Alain, je crains que cette guerre ne soit la dernière de notre bon empereur. Je ne vois pas comment il pourrait retourner la situation et l'emporter. »
Ne donnez-vous pas dans le défaitisme prématuré, colonel.
Je ne le pense pas, mon jeune ami. Voyez-vous, nous n'étions pas préparés à cette guerre, contrairement aux Prussiens. Et souvenez-vous qu'ils sont revanchards. Bonaparte les avait quelque peu humiliés à Iéna. J'ai l'impression que les Prussiens et Bismarck, à plus forte raison, sont revenus pour nous le faire payer.
Si je ne vous connaissais pas davantage, je pourrais vous accuser de trahison, colonel.
Je pense que je n'ai plus besoin de prouver mon allégeance à la France. N'y voyez là aucune sédition de ma part, Alain. C'est bien tout le contraire. Je suis frustré de voir l'armée dans un tel état de délabrement. Nous sommes tellement en retard par rapport aux Prussiens, et nombre de nos officiers sont des incapables.
Songeriez-vous à rempiler, colonel ?
Certes pas. Ma vieille carcasse ne le supporterait pas. Je suis un vestige d'un autre temps. Mais pourquoi me le demander ? Penseriez-vous à vous engager sous les drapeaux, Alain ?
Eh bien, tout à fait. C'est bien là mon intention. En entendant cela, je manqua de lâcher mon plateau et ne le rattrapa que de justesse. Devant le regard interrogateur du maître des lieux et de son invité, je montrai du bout de la chaussure un repli du tapis avec un sourire désolé sur le visage. Ils eurent un petit rire et reprirent leur conversation.
Alain, vous n'y pensez pas. Vous ne songez pas à rallier le front tout de même.
Je vous assure que telle est ma volonté. Je veux me battre pour mon pays et pour l'empereur.
Votre condition physique ne vous le permettrait pas. Vous avez été réformé à cause de ça. Sous votre respect, vous n'êtes pas en état d'aller vous battre. »
Je me suis déjà occupé de faire lever cette interdiction. Mon enthousiasme a dû avoir raison de l'officier.
Je conçois tout à fait la volonté de vouloir se battre pour son pays, Alain. Mais je vous conjure de rester prudent. Je n'ai jamais eu d'enfant et je vous considère presque comme un fils. Alors promettez-moi de ne pas jouer au héros.
Je vous le promets, colonel. Le colonel ne partit que tardivement, cherchant lui aussi à éviter autant qu'il le pouvait les rayons du soleil. Alain de Monéis me donna congé et se dirigea vers ses quartiers. J'étais assailli de questions. De toutes les personnes que je connaissais, Alain de Monéis était bien la dernière que je voyais s'engager sous les drapeaux. Qu'est-ce qui pouvait bien le motiver à aller se perdre sur le front au risque de se faire tuer? Et pourquoi au nom de l'empereur? Napoléon III n'avait même pas idée de ce à quoi pouvait ressembler mon maître. Pestant intérieurement, je me disais que Napoléon pouvait bien y aller tout seul en Prusse. Bien évidemment, je n'abordais pas le sujet avec de Monéis. Qui étais-je pour discuter son choix de s'enrôler? Et je me fis à l'idée de voir prochainement partir cet homme si gentil et honorable. Pourtant, le destin avait déjà décidé que Alain de Monéis ne quitterait pas les terres de Dordogne. Le village de Hautefay était en fête. Malgré l'humeur maussade due aux fortes chaleurs et au manque de pluie, les villageois voulaient, l'espace de quelques jours, oublier leurs problèmes. La foire de Hautefay était reconnue dans la région pour son attractivité. Mes parents attendaient toujours cette foire avec impatience. Elle était souvent synonyme de ventes importantes. De mon côté, j'attendais de pouvoir me libérer de mes obligations auprès d'Alain de Monéis pour retrouver la belle Annette, qui travaillait à mes côtés au domaine. Le maître des lieux nous avait promis de nous donner quartier libre à cette date, nullement dupe de notre relation naissante. L'avant-veille de la foire, le domaine reçut la visite d'un invité de marque, Camille de Maillard, le fils du maire de Beaussac et accessoirement le jeune cousin d'Alain de Monéis. Lui aussi voulait assister à la foire annuelle de Hautefay et rendre visite à son cousin. De Maillard avait appris la volonté d'Alain de Monéis de rejoindre les rangs de l'armée et il s'était mis en tête de l'en dissuader. J'étais tellement pris par ma discussion avec Annette que je n'écoutais pas leur conversation. Je me souviens toutefois que Camille de Maillard sortit du salon avec un air abattu sur le visage, comme s'il avait tout essayé et que rien n'avait fonctionné. Il m'adressa un petit sourire peiné et vint me poser la main sur l'épaule.
« Mon garçon, apprécies-tu de travailler pour mon cousin ?»«
Bien sûr, monsieur de Maillard. » »«
Très bien.
Rends-moi ce service et garde-le à l'œil. Je me doute que tu ne le suivras pas au front, mais fais bien attention à lui jusque-là.
Tu veux bien ?»«
Avec plaisir, monsieur de Maillard. »
Il me gratifia d'un petit sourire et s'en alla. J'adressai un regard d'incompréhension à Annette, qui n'était pas sûre non plus de ce qui venait de se passer. La journée se passa dans le calme habituel du domaine. Alain de Monéis vaquait à ses occupations, et je le concède, je m'étais mis en retard sur mes obligations, trop occupé à blaguer avec Annette. C'est alors qu'Alain de Monéis vint me rappeler à mes devoirs.
Je suis ravi de constater que mon personnel s'entend aussi bien. Toutefois, je vous rappelle que je dois me rendre à la foire durant l'après-midi, si vous êtes disposé à m'accompagner, bien entendu.
Oui, monsieur, je suis prêt.
Annette, je vous rends Pascal ce soir.
Après un dernier sourire adressé à la jeune femme, il me désigna la porte et nous partîmes en direction du village. Je me souviens encore maintenant de l'atmosphère étrange qui y régnait. De Monéis ne semblait pas le réaliser, mais il n'avait pas mon vécu dans cet endroit. Surtout en période de foire, les rues étroites s'ébattaient de musique, de chants et de quelques étals où les paysans exposaient fièrement leurs productions. Mais pas ce jour-là. L'endroit était étrangement silencieux, déserté par ses habitants. De Monéis et moi échangeâmes un regard circonspect. Que s'était-il passé? Nous continuâmes notre progression pour finalement trouver un attroupement à proximité de la place centrale. C'était à croire que tout le village s'était amassé, les regards concentrés sur un même objectif. Je reconnus alors un visage familier. Pierrot, le métayer de Camille de Maillard. Guère plus âgé, Pierrot et moi avions grandi à un jet de pierre l'un de l'autre. D'aussi loin que je me souvienne, il était un garçon adorable et serviable, toujours prêt à commettre quelques farces de son cru. Toutefois, je ne lisais aucune malice sur son visage en cet instant, c'était même l'inverse. Il était clairement dans une grande détresse et se rua dans ma direction à l'instant où il me reconnut.
« Eh bien quoi, Pierrot? Tu as fait une de tes bêtises et tu veux te planquer de ton père, c'est ça?
Est-ce que tu as vu le cousin de ton maître ?»«
Monsieur de Maillard ?»«
Oui, ce matin. Pourquoi cette question ?»«
Il ne doit pas revenir au village. Je crois qu'ils veulent lui faire du mal. »«
De qui parles-tu, garçon ?» demanda Alain de Monéis.
« Monsieur de Monéis, votre cousin aurait dit des choses horribles au sujet de l'empereur. Et du coup, les villageois veulent le retrouver. »«
Foutaise. Mon cousin ne parlerait jamais en mal de l'Empire ou de l'Empereur.
Je le sais bien, monsieur. Mais eux en sont persuadés. Ils ont beaucoup bu, monsieur, et je crains pour monsieur de Maillard.
Mon maître me pressa d'accompagner Pierrot à la recherche de son cousin. Son visage trahissait une inquiétude sourde que je ne lui avais jamais vue, faisant résonner chez moi un sentiment d'urgence. Puis il se détourna et se dirigea droit vers la foule, qui semblait vibrer de colère. Alors que l'on s'éloignait pour retrouver la trace de Camille de Maillard, je ne pus retenir un dernier regard en direction d'Alain de Monéis. Il avait engagé la conversation avec le maire de Hautefay. Et ce n'était pas de lui dont j'avais peur. C'était de ceux qui tournaient autour d'eux. Une fois encore, ils avaient cette flamme malsaine qui flottait dans leurs yeux. Même dans la lumière vive de l'après-midi, je pouvais distinctement la voir. Et malgré mon attachement à mon maître, je ne pus dissimuler mon soulagement à Pierrot. Aujourd'hui encore, je blâme ma faiblesse. J'ai eu peur de ces hommes, peur de cette haine sourde qui semblait se déverser par tous les pores de leur peau, peur d'être malmené, peur de leur regard de possédé. Et je me blâme encore davantage quand je sais ce que ces êtres ont fait à Alain de Monéis. Pierrot et moi nous précipitâmes à la mairie du village et nous y retrouvâmes un Camille de Maillard furieux et terrifié à la fois. Une plaie profonde barrait son front et le sang coulait avec profusion. Et alors que Pierrot allait chercher de quoi le panser, je faisais de mon mieux pour endiguer le flot vermillant.
« Que s'est-il passé, monsieur de Maillard ?
Pierrot nous a raconté que les villageois vous avaient attaqué. »
C'est exactement ce qu'il s'est passé. Le maire et moi parlions de l'avancée du conflit. L'armée française a été mise en déroute à Reichshofen, il y a une semaine environ. Nous ne faisions que deviser sur la suite des événements et j'ai admis que l'empereur n'avait pas d'autre choix que de reculer face aux Prussiens.
Et que s'est-il passé ensuite ?
Un des paysans présents m'a alors apostrophé, me disant que je n'avais pas le droit de parler ainsi de l'armée ou de l'empereur. Je lui ai répondu que je ne critiquais pas l'empereur, simplement qu'au vu de la situation, les généraux n'auraient pas d'autre choix que de reculer.
Vous vous souvenez de qui il s'agissait ?
Je me souviens que le maire l'a surnommé le Mexicain.
Bretnou ?
Monsieur de Maillard, vous en êtes sûr ?
Oui, pourquoi ?
Bretnou est un vétéran de l'armée. On l'appelle le Mexicain parce qu'il a fait la campagne de l'empereur là-bas.
Ah, je comprends mieux son agacement.
Mais justement, en tant que vétéran, il devrait reconnaître mieux que personne lorsqu'une situation exige un retrait.
Bretnou est un fanatique de l'empereur, comme beaucoup de monde ici. Napoléon ne peut pas avoir tort.
Pierrot réapparut pour aider Camille de Maillard à panser ses plaies. Je jetais dans le même temps des regards par les fenêtres, m'assurant qu'aucun villageois enragé ne nous trouve ici. Camille de Maillard n'avait aucune idée de ce qu'il avait déclenché. Pour lui, discuter de la guerre ou des choix de l'Empire n'avait rien d'offensant ou de dérangeant. J'avais entendu ce genre de conversation dans le cabinet d'Alain de Monéis à bien des reprises. Je n'en concevais aucune colère de mon côté. Qu'il s'agisse de mon maître ou de ses interlocuteurs, ils étaient bien mieux versés que moi dans la chose militaire. Qui étais-je pour en débattre ? Brusquement, j'entendis Camille de Maillard exploser derrière moi.
« Qu'est-ce que tu dis ? Mon cousin veut discuter avec eux et vous l'avez laissé là-bas ?
Mais, monsieur de Maillard, est-ce que vous êtes parfaitement inconscient ? Vous vous rendez compte du danger qu'il encourt ?
Monsieur de Maillard, votre cousin est avec le maire du village. Il ne risque rien.
Le maire est un peureux. Au moindre signe d'hostilité, il se carapatera. Comment crois-tu que je me sois retrouvé avec cette plaie au front ? Mon cousin ne pourrait pas être plus en danger. »
Camille de Maillard se leva brusquement, mais ses jambes refusèrent de le porter. Il vacilla et ne fut rattrapé que de justesse par Pierrot.
« Veuillez rester là, monsieur. À l'évidence, vous n'êtes pas en état de marcher, et je ne pense pas que les villageois vous reçoivent avec bienveillance. »«
Et que proposes-tu, garçon ?
Je vais aller chercher votre cousin. » Je vous avais promis de garder un œil sur lui, et je ne faillirai pas une seconde fois. Par Dieu, je vous le promets.
Je voudrais te suivre, mon garçon, si ma tête voulait bien s'arrêter de tourner.
Je sortis de la mairie avec l'estomac noué. Camille de Maillard n'était jamais passée pour un couard auprès de son cousin. Le voir ainsi paniqué et incapable de bouger m'avait profondément marqué. Mais contrairement à eux deux, je n'étais pas enfant de la noblesse. J'avais grandi dans ce village dont je connaissais les moindres recoins. Après quelques minutes passées à évoluer avec prudence, je finis par retrouver plusieurs paysans, des voisins de mes parents, Marcel et Denis. Tous deux étaient manifestement saouls et riaient comme des imbéciles. Jouant de ma familiarité, je leur tapai sur l'épaule et demandai un gobelet de vin.
Hé, qui voilà ? Marcel ! Donne-moi donc un gobelet, c'est le petit Pascal. Faisons-lui goûter notre pif.
Quelques minutes plus tard, alors que je faisais mine de vider mon verre, je me hasardai à quelques questions.
Vous savez ce qu'il se passe dans le village? Je croyais qu'avec la foire, les rues seraient remplies.
Ah, mais t'es pas au courant? Ce bâtard de Rupin est revenu jusqu'au village pour venir cracher sur l'empereur. Si j'avais été là...
Le Rupin?
Monsieur de Maillard, le fils du maire de Beausac. Tu te rends compte, Pascal? Il est venu manger notre pain, boire notre vin, et il se permet d'insulter l'armée de Napoléon.
Hé, hey Marcel, tu penses qu'ils ont fait quoi du cousin?
Pas que du bien. Enfin, ils l'ont enfermé chez le maréchal Ferrand, et il était pas en bon état.
Attends, de quoi est-ce que tu parles?
À ton avis, Pascal, qu'est-ce qu'on fait aux Prussiens par chez nous? Ah, ils l'ont bien tabassé quand je suis sorti de l'atelier, il y avait du sang partout, tiens, regarde ma chemise.
Mais je comprends pas, de Monéis, il est pas Prussien?
Bien sûr que si, gamin. Y a qu'un Prussien pour insulter l'Empire. Marcel, le de Monéis s'est engagé dans l'armée justement pour aller se battre contre les Prussiens.
Ah.
Ben, ça leur fera un de moins à s'occuper.
Marcel et Denis n'en dirent pas plus sur le sujet et repartirent dans leur chanson approximative bercée par le vin. Mon sentiment de panique s'embrasa alors qu'il me décrivait ce que mon maître avait subi. Et à peine avais-je tourné le coin de la rue que je me projetais en avant à la recherche de l'atelier du maréchal Ferrand. Je n'étais pas loin, et je ne pouvais pas me permettre de perdre une seule seconde. Sans même me méfier, j'accourus dans la rue de l'atelier, et je n'avais pas fait attention au bruit qui en provenait. La moitié du village était agglutinée, là, cherchant à voir ce qui s'y passait. Et alors je les entendis pour la première fois. Des cris de mon maître. Pendant un instant, je m'étais permis de croire qu'il s'agissait d'un animal auquel quelque esprit dérangé faisait subir un supplice innommable. Malgré mon amour éternel des animaux, j'en étais réduit à espérer qu'il s'agisse de cela. Et ma raison, quant à elle, ne me laissa pas le luxe de l'illusion. Ces cris déchirants provenaient bel et bien d'une gorge humaine. Ce que les deux compères m'avaient raconté tantôt se déroulait devant mes yeux. L'atelier du maréchal Ferrand, porte close, semblait luire dans la pénombre désormais installée. Chaque ouverture ou fissure faisait poindre un trait de lumière rouge sang, comme si elle s'échappait de ce théâtre morbide. Les villageois cherchaient à trouver la moindre petite ouverture pour espérer voir chaque détail. Leur masse mouvante et sombre ne reflétait plus aucun comportement humain, semblable à de la vase noire se déplaçant d'une volonté commune. Pendant une seconde, j'avais l'impression de voir un agglomérat de rats noirs de jet, cherchant frénétiquement à entrer pour se repaître. À nouveau, un cri vint percer l'air. La foule laissa échapper un souffle de satisfaction et ils s'activèrent alors davantage, comme excités par cette souffrance inhumaine. De mon côté, alors que le cri de mon maître me parvint, j'explosai en sanglots. J'étais à la fois terrifié et perdu. Qu'est-ce que cet homme avait fait pour mériter un tel traitement? Aucun de ces esprits déments ne connaissait Alain de Monéis comme moi. Après être resté prostré pendant quelques instants, je vis la porte de l'atelier s'ouvrir avec fracas. Le maréchal Ferrand sortit de son atelier et j'eus bien du mal à le reconnaître. J'avais grandi dans ce village et j'en connaissais chaque visage. J'aurais même pu reconnaître un timbre de voix ou une démarche particulière. Et je ne reconnaissais pas cet homme. Il avait certes la carrure de notre maréchal Ferrand, il en avait également les traits. Mais ce n'était pas l'homme que je connaissais. Cette silhouette massive se découpant dans les flammes rouges de l'atelier était un étranger. Il n'avait plus rien de comparable avec l'homme doux à la forte voix qui donnait le rythme au village à coups de marteau. Celui-là semblait être vomi par un quelconque cercle infernal, venant répandre sa violence et sa désolation. La masse des villageois se recula devant cette silhouette menaçante. Il aboya un ordre que je ne compris pas et tous se dirigèrent alors vers la place centrale du village. J'entendis leurs rires, goguenards et sadiques, apparemment satisfaits de leurs méfaits. C'était ma chance de libérer de Monéis. J'évacuai les images qui venaient s'imprimer dans mon esprit et je ne devais pas faiblir. Il n'avait plus que moi pour le libérer. Je poussai avec précaution la porte de l'atelier et me retrouvai alors dans un authentique cauchemar. L'air suffocant était teinté de rouge et d'orange, comme si l'atelier était lui-même en proie au brasier. Les murs étaient couverts de sang, rendus à peine discernables dans ce maelstrom vermillon par sa brillance malsaine. Et au centre de l'atelier, attaché à l'établi, je trouvais enfin le corps supplicié de mon maître. Il était complètement nu, les mains attachées sous l'établi, exposant son dos et ses jambes au coup de bâton de ses tortionnaires. Il n'était plus qu'une plaie ouverte et pulsante, lâchant par moments un râle court.
Je m'avançais avec prudence, peinant à croire que j'avais laissé cet homme seulement quelques heures plus tôt en parfaite santé. Ses blessures parcouraient tout son dos, lacérant sa peau, parfois jusqu'à exposer l'os. Comment pouvait-il encore respirer après un tel traitement? Je passai sous l'établi pour défaire les liens qui le retenaient, et il s'effondra d'un bloc. Je le saisis par le visage.
« Monsieur de Monnays, je vous en conjure, relevez-vous. Je ne pourrai pas vous porter tout seul, vous devez m'aider. »
C'est toi, Pascal?
Oui, monsieur. Nous ne devons pas rester là.
Pourquoi fait-il si froid? Il me semblait que nous étions en août.
Monsieur, par Dieu, ressaisissez-vous.
Je pouvais entendre des éclats de voix à l'extérieur de la cabane qui se rapprochaient. Il n'en avait pas fini avec lui. J'essayais désespérément de relever mon maître quand une nouvelle voix résonna.
Allons, bonnes gens. Le Prussien n'ira nulle part. Venez donc à la paroisse. J'y ai le meilleur vin de la région.
Le curé du village. Essayait-il de détourner leur attention? J'en avais pas le temps de m'en assurer. Et alors que je tirais de toutes mes forces sur les bras d'Alain de Monnays pour le sortir de l'atelier, une voix m'interpella.
Pascal! Pascal! Par ici!
Je me retournai brusquement pour reconnaître mon interlocuteur. Georges, le neveu du maire.
Georges! C'est le ciel qui t'envoie.
J'ai bien l'impression que le ciel se soit absenté, Pascal.
Ils sont tous devenus fous, ma parole. Regarde ce qu'ils lui ont fait.
Je vois bien, mon gars. Il faut le faire sortir d'ici au plus vite. On va le mettre à l'abri chez le maire. Ils ne viendront pas le chercher là-bas.
Très bien. Aide-moi, Georges.
Plus âgé et plus fort que moi, Georges se saisit du corps et le jucha sur ses épaules, sans un effort. Puis nous sortîmes de l'atelier à pas de loup, bien conscients d'attiser la colère des villageois si nous venions à être pris. À une trentaine de mètres de la maison du maire, nous fûmes surpris par un petit groupe. Je laissai Georges derrière moi, bien décidé à faire diversion. J'adressai un sourire, que j'espérais le plus niais possible, simulant mon enivrement. Ils me regardèrent passer en riant, de bon cœur. Manifestement, cela ne faisait pas partie de la cohorte qui cherchait à torturer mon maître encore davantage. Après quelques instants, je rejoignis Georges qui avait réussi à rejoindre la maison de son oncle, le maire de Hautefay.
Mon oncle! Ouvrez, mon oncle!
Il n'est peut-être pas là.
Il est là. Il a trop peur d'ouvrir, c'est tout.
Une fenêtre s'ouvrit au-dessus de nous, révélant le visage bouffi du maire du village.
Georges, que veux-tu à cette heure?
Ouvrez la porte, mon oncle. Je suis avec Alain de Monnays, il est gravement blessé.
Eh bien, mène-le chez le médecin, dans ce cas.
Le maréchal Ferrand le cherche. C'est lui qui l'a mis dans cet état. On ne doit pas rester là. S'il nous trouve, je ne donne pas cher de notre peau.
Et pourquoi venir ici?
Parce que vous êtes le maire, mon oncle. Ils n'oseront pas venir le chercher ici.
Je ne veux pas m'impliquer dans cette affaire, Georges.
Mais vous êtes impliqué dans l'affaire. Monsieur de Monnays était avec vous quand ils l'ont attaqué. Pourquoi vous ne l'avez pas défendu?
Tu ne sais pas de quoi tu parles, gamin.
Bafouilla l'homme qui transpirait de plus en plus. Mon oncle, vous ne l'avez tout de même pas abandonné à son sort?
Mais non, enfin pas du tout. Pourquoi voudrais-tu le croire?
Parce que ce garçon a fait montre de plus de courage que vous. Il a risqué sa vie littéralement pour secourir Monsieur de Monnays.
De toute façon, Monnays est un agent prussien. Il l'a dit lui-même.
Je n'ouvrirai pas ma porte à un traître. Vous êtes décidément un pleutre de la pire espèce. Vous savez parfaitement bien que Monnays n'est pas un partisan de la République. Comme vous savez qu'il allait s'enrôler pour se battre contre les Prussiens.
Ce ne sont que des racontars. Des rumeurs,
répondit le maire, de moins en moins sûr de ses arguments. Mon oncle, vous vous souvenez qu'Alain de Monnays est un ami de longue date du colonel d'Estrangiers? Qu'est-ce que vous pensez qu'il répondra lorsqu'il saura que nous avons trouvé porte close chez vous? Je sais que les villageois vous font peur, mais je sais aussi que le colonel vous terrifie. Se sachant coincé, le maire lâcha un son qui ressemblait à un couinement d'animal blessé. Et après quelques instants,
amenez-le dans mon étable. Mais je ne veux pas qu'il le trouve dans la maison. Il briserait ma vaisselle.
Georges me saisit par le bras alors que je m'apprêtais à jeter une pierre au visage de cette outre pleureuse et vaine. Viens. Allons mettre ton maître à l'abri. Il ne mérite pas davantage d'attention. Georges nous ouvrit la porte de l'étable. Les moutons levèrent la tête, surpris d'être dérangés à une pareille heure. Nous déposâmes Alain de Monnays sur un épais tapis de paille, ses plaies saignant encore abondamment.
Pascal, vais aller chercher quelqu'un pour le soigner. On ne peut pas le déplacer davantage.
Qui vas-tu chercher ?
Dubois. Je le connais bien, je sais qu'il ne nous trahira pas. Je le souhaite vraiment de tout cœur.
Je faisais de mon mieux pour épancher le sang qui coulait à flot. Malgré la bonne volonté de Georges, je craignais que mon maître ne passe pas la nuit. Les blessures étaient impressionnantes. Les lacérations dans son dos étaient à vif, mais ce qui m'inquiétait davantage, c'était la coupure profonde qu'il avait au crâne. Il semblait que la violence du coup avait déformé sa tête et enfoncé une partie de l'os. Comment pouvait-il être encore en vie ? Une dizaine de minutes après son départ, Georges revint avec Dubois, un artisan du village. Ce dernier avisa rapidement les blessures de mon maître et laissa s'échapper un long soupir.
Il est vraiment amoché, Georges. Je ne sais pas trop quoi faire. Je ne suis pas médecin. Je pourrais soigner une coupure, un mauvais coup, mais là, c'est un prêtre qu'il vous faut. Que s'est-il passé ?
Nous lui racontâmes toute l'histoire. Son visage se déconfit à mesure de notre récit.
Je crains qu'il ne soit véritablement en sécurité qu'au château.
Je ne serais pas surpris que ton oncle te trahisse, Georges.
Il ne sortira pas de chez lui. La meilleure chose à faire serait de rester là et de prier que personne ne vous trouve. Pendant ce temps, je vais voir si je peux au moins trouver de quoi calmer les saignements.
Dubois s'affaira du mieux qu'il le put. Je reste encore aujourd'hui admiratif de cet homme. Il parvint à arrêter le flot de sang coulant de la tête de mon maître et appliqua un onguent sur son dos qui calma manifestement la douleur. Les traits du supplicié se détendirent et il sembla retrouver quelque cohérence. Il finit par s'endormir, vaincu par l'effort.
Merci Dubois. J'ai l'impression que tu l'as apaisé. Pour l'instant, il est encore en état de choc. Les prochains jours seront déterminants, Pascal. Et là, je serai désarmé. Il faudra compter sur la détermination de ton maître à vouloir vivre.
Il voulait se rendre sur le front et affronter les Prussiens.
Il peut d'ores et déjà oublier ça. Je ne sais même pas s'il survivra, et s'il survit, il devra peut-être vivre avec des séquelles qu'on ne soupçonne pas.
Qu'est-ce qu'il aura pris, Dubois ? Je ne pensais pas qu'Alain de Monéis était à ce point détesté dans le village. Mais là, toute cette violence...
De Monéis défendait l'honneur de son cousin. Chambord, le maréchal Ferrand, accusait Camille de Maillard d'être un traître à l'Empire. Ton maître n'a rien voulu entendre, il ne croyait pas les accusations de Chambord. Et le maréchal Ferrand s'est mis à l'insulter, puis à le frapper. Le curé et moi avons essayé de calmer leur fureur, mais c'était inutile. Ils étaient comme possédés. Chambord était le pire de tous. Mon Dieu, Pascal, il m'a terrifié. Je voulais m'enfuir le plus loin possible.
Derrière nous, nous entendîmes Georges se redresser brutalement.
Ils nous ont trouvés.
Depuis les petites ouvertures, nous pouvions apercevoir des points lumineux des torches se diriger vers l'étable. Dans l'air, une rumeur sourde et vrombissante grandissait, de plus en plus lourde et malaisante. Nous nous regardâmes tous les trois, incapables d'identifier ce son effrayant. Nous éteignîmes les lampes dans l'étable et nous plaquâmes contre les murs. Je pouvais apercevoir cette même masse que j'avais vue devant l'atelier du maréchal Ferrand. Cette chose sombre et grouillante se comportant comme une marée de rats. Elle avait grandi, comme si elle avait attiré à elle les âmes et la haine des villageois qu'elle croisait sur son chemin. Et je vis enfin celui qui menait cette marée bouillonnante de haine, notre maréchal Ferrand Chambord, le Mexicain. Je ne pouvais pas concevoir que cette silhouette menaçante, dégoulinante de fureur pouvait être celui que mon propre père considérait comme un frère d'une autre mère. Il semblait avoir grandi. Ses yeux brillaient d'un brasier infernal. Il hurla quelque chose à la masse noire qui le suivait comme un animal de compagnie. Et je ne reconnus pas sa voix. Chambord était connu pour sa voix puissante et sa capacité à réveiller tout le village alors qu'il allumait sa forge. Mais la voix de cette chose n'avait rien de comparable. Elle était basse, grave, mais également déchirée et glaireuse. Tout dans son attitude trahissait une violence inhumaine, une rage bestiale. Il dirigea son regard vers l'étable et j'aurais pu jurer qu'il devina ma présence. Son regard brûlant toisa l'étable, ses dents se découvrirent dans un sourire sadique de prédateur retrouvant sa proie blessée et sans défense. Il tendit sa torche dans notre direction et lâcha un aboiement digne d'un cerbère. En quelques instants, la cohorte infernale se rua sur les portes de l'étable, déchargeant tout ce qu'elle avait de colère et de violence sur les fragiles montants en bois. Georges et moi, nous décidâmes de dissimuler le corps inconscient de mon maître sous des fétus de paille. Mais les malheureuses bêtes présentes avec nous, reniflant sans doute l'inhumanité et la fureur derrière la porte, commencèrent à s'agiter et à bêler de plus en plus fort. Je réalise aujourd'hui, en couchant ces lignes, que Dubois, Georges et moi-même réagissions comme ce pauvre bétail. nous étions pris au piège de l'étable, sur le point de faire face à la mort. La porte de l'étable sembla alors éclater de toutes parts, et dans l'ouverture donnant sur un noir presque absolu, deux billes de feu s'approchaient lentement avec un grognement sourd. Les quelques instants qui suivirent l'effondrement de nos défenses ne me reviennent que de façon parcellaire et floue. Je pense que dans la débâcle, l'un des animaux a dû me renverser et me laisser aux abords de l'inconscience. Lorsque je parvins à sortir de ma torpeur, l'étable était en proie aux flammes. Les moutons s'étaient enfuis, et je pouvais apercevoir Dubois qui se tenait la tête à deux mains. J'allais à sa rencontre et il me parla, mais je n'entendis rien. Ses lèvres bougeaient, mais étrangement, je n'entendais plus un seul son. Il posa sur moi un regard inquiet et passa ses doigts sur mon front, maculé de sang. À cette vue, mes jambes me trahirent et s'affaissèrent. Je ne m'éveillai finalement que grâce aux gifles que me donnait Dubois.
« Bon Dieu, Pascal, c'est pas le moment de faire la sieste !»«
Ça va, Dubois, ça va. Où est-ce qu'ils sont ?»
Ils l'ont emmené. Ils se sont jetés sur lui comme des vautours sur une carcasse. Bien essayé de parler avec eux, mais le Liroux a préféré couper court et m'a cassé sa canne sur la tête.
« Comment nous ont-ils trouvés ?»
Je l'ignore. Georges est allé demander des explications à son oncle, mais je doute qu'il y soit pour quoi que ce soit. Je pense que nous faisons face à quelque chose de malfaisant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils nous ont retrouvés alors que nous étions sortis de l'atelier sans être vus. Ils ont enfoncé la porte de l'étable sans y mettre beaucoup d'efforts, mais par-dessus tout, il y avait quelque chose dans leurs yeux. Une flamme, dis-je sans hésiter, soulagé qu'il ne s'agisse pas de ma seule imagination.
Oui, exactement.
On aurait dit que leurs yeux brûlaient. Est-ce que ce sont des démons, Pascal? Je connais presque tous ces hommes, et je ne les ai jamais vus se comporter de telle manière.
Je ne sais pas. J'aimerais comprendre, moi aussi.
Je sais que certains d'entre eux pensent que Alain de Monéis était un traître à l'Empire. Mais nous avons tellement dépassé ce stade. Dubois m'aida à me relever et passa mon bras par-dessus son épaule. En sortant, nous croisâmes Georges qui tenait son oncle par le col. Il était furieux. Et secouait son oncle en lui demandant pourquoi il les avait trahis. Le jeune artisan en avait les larmes aux yeux. Je posai ma main sur son épaule, lui faisant comprendre que c'était inutile. Georges laissa son oncle et vint aider Dubois à me porter. Nous nous dirigeâmes vers la maison de mes parents, tous les trois silencieux. Nous avions échoué. Je pleurais à chaudes larmes, comprenant que j'avais failli à tous mes engagements. Camille de Maillard m'avait fait jurer de garder un œil sur son cousin et de le protéger. Il avait désormais disparu, et je n'ose imaginer ce qu'il peut vivre. Qu'allait-il lui arriver? Le village semblait être tombé dans un silence de tombeau. Malgré la foule enragée qui nous avait attaqué plus tôt, comment croire la sauvagerie que nous venions de vivre? Et Georges poussa un soupir.
Qu'allons-nous trouver demain? Que va-t-il leur arriver?
Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer si facilement.
J'enverrai une missive au colonel d'Estrangier. C'est un homme puissant et surtout un ami proche d'Alain de Monéis. Seriez-vous prêt à témoigner de ce que vous avez vu ?
Bien sûr,
répondit Georges sans une once d'hésitation.
Oui,
il y aura mon témoignage également, et je pense que le Pierrot témoignera aussi. Ainsi que Monsieur de Maillard, sa blessure est là pour le prouver.
Nous n'avons plus qu'à espérer que Monsieur de Monéis survive à cette nuit.
Georges s'arrêta brusquement, le menton levé, une expression d'horreur sur le visage.
Regardez. Regardez là-haut.
Nous dirigeâmes nos regards vers le ciel. Dans un premier temps, je n'étais même pas sûr qu'il y eût quoi que ce soit à voir dans le ciel encombré. Puis quelque chose finit par se découper à la faveur de la lune qui se découvrait de façon intermittente. Une forme menaçante se confondant avec les nuages bas, titanesque et lourde, semblait tomber sur le petit village comme un oiseau de proie tomberait sur sa cible. Une voix sourde aux phrases incompréhensibles provenant du centre du village nous alarma encore davantage. Car c'était la voix de Chambord, le meneur de l'attaque sur l'étable. Nous étions restés immobiles à cette vue de cauchemar, et derrière la voix terrifiante de Chambord, une autre voix perça, qui gela le sang dans nos veines. Un hurlement d'agonie pure s'éleva et parcourut les rues jusqu'à nous parvenir. Sans même nous regarder, nous avions compris de qui provenait ce son effrayant. Je fis un premier pas en avant, mais Georges me retint le bras.
« Pascal, non !» J'ignore quelle diablerie se trame là-bas, mais nous ne pouvons clairement pas y faire face. Je ne vous force pas à me suivre, mais ne me forcez pas à rester.
Je peux encore peut-être l'aider.
Tu sais bien que non. Tu as vu ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais juste que je peux peut-être l'aider.
Je me dégageai de la prise de Georges et me précipita dans la rue en direction de la place centrale. Les hautes flammes que je pouvais apercevoir me terrifiaient autant qu'elles me pressaient à courir encore plus vite. La sauvagerie à laquelle nous avions assisté ne pouvait que laisser envisager le pire. La place centrale, comme les tables du maire, était en proie aux flammes. La chaleur était insupportable. Au centre de la place, je pouvais apercevoir Chambord en proie à la prostration, les bras levés vers le ciel. Il ne me remarqua même pas. Alors que je m'approchais, ses yeux écarquillés et fiévreux ne dévièrent jamais, même alors que je me tenais à moins d'un mètre de lui. Dans la lumière vive du brasier, je reconnaissais sans aucun doute possible le forgeron bon vivant et blagueur aux côtés duquel j'avais grandi. Ses traits étaient déformés, le faisant ressembler à une bête sauvage prête à me sauter à la gorge. Il marmonnait quelque chose d'incompréhensible. Puis je tournai le regard dans la même direction que lui. Chambord et sa suite avaient érigé un bûcher, sans doute l'origine du reste de l'incendie. Et ce que Chambord fixait de son regard halluciné n'était autre que le corps fumant de mon maître. Il était entouré de plusieurs autres villageois grinçant et ricanant, agitant leurs poignards et leurs fourches. Je tombai à genoux devant ce spectacle cauchemardesque, mon esprit refusant purement et simplement d'y croire. Était-ce la chaleur dégagée par les flammes qui tordirent ma vue? Les silhouettes se détachant dans la lumière ne semblaient plus se mouvoir ainsi qu'un homme le pouvait. Ils ne semblaient plus obéir à aucune règle cohérente. Je pouvais les voir s'approcher du corps supplicié et l'entailler de leurs lames avant de repartir dans un rire bestial. Ces monstres étaient en train de dévorer la chair carbonisée. Un mouvement brusque au-dessus de moi me fit lever la tête. Cette même forme que Georges et Dubois avaient vue se tenait désormais au-dessus de la place, plus menaçante encore. Sa voix se fit alors entendre. Plus lourde encore qu'un coup de tonnerre distant et m'enveloppant complètement, cette forme avait une volonté propre chargée de la plus pure haine. Malsaine et noire. Durant une fraction de seconde, j'eus l'impression qu'elle me vit, considérant l'insignifiante chose que j'étais et suis encore aujourd'hui. Puis ma volonté m'abandonna. Je m'affaissai sur place comme une poupée de chiffon drainée de toute énergie. Georges et Dubois me trouvèrent ainsi. Les deux hommes avaient bravé la situation et ils étaient venus me chercher. Je fus levé du sol et emporté, mes yeux rivés une nouvelle fois sur le bûcher et la dépouille d'Alain de Monéis. Je fus pris d'une épouvantable fièvre dès le lendemain. La situation semblait si désespérée que le soir même, le curé du village vint procéder au dernier sacrement. Mes parents ainsi que Georges, Dubois et Camille de Maillard se succédèrent à mon chevet. Leurs visages m'apparaissaient comme à travers un songe, leurs voix me provenaient partiellement comme s'ils parlaient à travers un voile. De ce qu'ils me dirent, je n'en conservais aucun souvenir. Certainement des paroles de réconfort ou d'encouragement. À cet instant, je m'en moquais. Je voulais partir, suivre mon maître. Je ne voulais pas vivre dans un monde où de telles choses pouvaient se passer. Mon inconscience fut perturbée par des cauchemars récurrents. Je me retrouvai à nouveau à courir dans les rues du village, poursuivi par une ombre titanesque flottant au-dessus des maisons, se confondant avec la fumée noire de l'incendie qui dévorait le village. Ma course se finissait toujours de la même manière, quel que soit le chemin que je pouvais prendre. Chambord apparaissait, me fixant de son regard halluciné, puis s'approcher de moi en agitant sa lame. Au moment où je me retournais pour m'enfuir, le corps sans vie d'Alain de Monéis me tendait les bras. 3 jours plus tard, je parvins à me lever de mon lit. Ma fièvre était partie presque aussi rapidement qu'elle était arrivée. J'en héritais une santé précaire qui me poursuivra jusqu'à mes derniers jours. Je ne pouvais plus travailler à la ferme de mes parents. L'effort demandé à mon organisme était devenu intolérable. Georges venait fréquemment me rendre visite et me donner des nouvelles du procès. Au lendemain des événements, Chambord avait été arrêté, ainsi que 21 autres villageois. Selon Georges, l'empereur lui-même eut vent de l'affaire, et avant même le procès, le maire de Hautefay fut renvoyé et remplacé. Alors que l'hiver approchait à grands pas, mes parents et moi vîmes arriver plusieurs véhicules de police. Ils transportaient les monstres de cette nuit-là. 4 d'entre eux avaient été condamnés à mort et seraient guillotinés dans le même foirail où ils avaient attaqué mon maître. Je ne me rendis pas à l'exécution. Je ne tenais pas à recroiser leurs regards et je craignais également de rencontrer une nouvelle fois la même haine que ce soir-là. Ce village, j'en étais alors convaincu, était maudit. Du haut de mes 15 ans, je ne connaissais rien du monde. Je n'étais même jamais sorti de cette petite région de Dordogne. Du plus loin que je sois allé, je pouvais toujours apercevoir le clocher de Hautefay, m'apportant ainsi un sentiment de sécurité. Désormais, cette flèche noire ne m'inspirait plus que la peur. Je réalisais plus tard que l'événement avait profondément endommagé ma foi. En 35 années, je ne remis plus jamais les pieds dans un lieu de culte. Lorsque l'Empire était sur le point de perdre la guerre face à l'Empire prussien, mes parents reçurent la visite du colonel d'Estrangier. Ce dernier, encore profondément ému par la perte de son ami, venait m'apporter un pli rédigé par feu à l'un de Monéis. Il m'en fit la lecture et je me fondrai une nouvelle fois en larmes. Alain Romuald de Monéis me faisait don d'une partie de sa fortune, ainsi que de son appartement parisien. Avec cette simple lettre, cet homme que j'admirais tant allait complètement changer ma vie. Le colonel me serra la main et commanda mon courage. Je lui répondis que ça n'avait pas été suffisant. Et lui me dit que parfois tout le courage du monde n'est pas toujours suffisant. Quelques mois plus tard, je quittais pour la dernière fois le domicile de mes parents. Je leur avais versé une large partie de l'héritage de feu mon maître, car je souhaitais plus que tout qu'il ne manque de rien. Mais de mon côté, rester dans ce village était devenu impossible. Je pouvais encore ressentir la colère et sentir l'odeur de brûler dans l'air. Je devais partir le plus loin possible de cet endroit que je pensais être le centre de quelques malédictions. L'avenir allait me donner tort. La capitale se remettait tout juste du conflit et de la révolte des communards, et je pensais sincèrement que nous aurions eu droit à une paix bien méritée. Maintenant, alors que je rédige ces lignes, des trains entiers de jeunes hommes à peine sortis de l'adolescence se dirigeaient vers la mort avec un sourire sur les lèvres, persuadés par ceux qui les envoyaient au front que leur patriotisme les sauvera. Je ne sais pas si je verrai la fin de ce conflit. Je ressens encore les séquelles de cette nuit-là, et je dois admettre que ma consommation d'alcool et de stupéfiants ne me laisserait sans doute pas atteindre un âge honorable. Et la peur, quant à elle, n'est jamais partie. Cette étincelle que j'avais vue dans les yeux des villageois alors qu'ils torturaient un innocent, et que j'avais reconnue sans aucun doute possible dans les yeux des passants qui semblaient être extatiques à l'idée de se battre à nouveau contre le voisin allemand. Ce n'était pas Hautefay qui se trouvait au centre de cette malédiction, mais la planète tout entière.